Chapitre 5e. C'était quelqu'un qui croyait n'avoir jamais menti. Il ne bégayait pas non plus. Il ne balbutiait jamais. Il n'employait jamais un mot pour un autre. Il n'avait jamais commis même ce mensonge de fait qui consiste à appeler garde-feu le pare-étincelle ou liseré le passepoil. Il évitait de parler des quelques étoiles dont il ignorait le nom, et quand il disait qu'il bruinait, on pouvait être sûr qu'il s'agissait bien de la bruine, et qu'il ne pleuvinait, et qu'il ne brouillassait point. Les jours où il sentait sa langue inhabile, il se bornait à parler des objets et des événements qui fournissent sans peine leur vocabulaire, le temps, l'histoire de France, et son langage de malade n'était plus qu'un langage d'enfant. Mais, dès sa convalescence, il plongeait dans les dictionnaires de termes techniques, et bientôt cette inspiration qui saisit les poètes après la lecture du dictionnaire de rimes lui donnait le nom de chaque courbe dans un péristyle, de chaque nervure dans un stylobate, de chaque brise dans un picot. Il avait même deviné, un superbe soir d'été, sans l'avoir jamais lu ni entendu, le mot trêcheur fleuronné. De sorte, disposant de 60 000 noms pour désigner son univers, alors que les Français, alors que Racine et Bossuet ne disposent pour désigner le leur que de 500 à 1000, qu'il avait l'impression d'un monde en ordre, d'un grand apaisement, l'impression qu'il pouvait mourir en paix. Il comprenait les tourments moraux de Racine, de Bossuet, abandonnés sans vocabulaire devant un siècle si riche en objets ouvragés. Les soirs d'émotion, de détachement, il achevait d'apprendre les différentes parties d'un menhir, les différentes races de chiens, comme d'autres polissent et repolissent leur testament. Il est doux de mourir en connaissant par son nom chaque pièce d'un menhir, chaque divagation de la race des Pointers. De sorte aussi que l'univers était recouvert pour lui, plus que pour tout autre, d'une croûte verbale qui lui cachait les gouffres du chaos et qu'il était optimiste. Pourquoi fallait-il qu'il eût choisi le seul métier où les mots ne soient pas de belles étiquettes, où ils se présentent à l'esprit tous mous comme des éponges, égluants et imprécis? Pourquoi fallait-il qu'il fût écrivain? Devant les opérations les plus simples de l'esprit, comme la déduction ou la restriction devant les aventures les plus cataloguées du cœur, comme l'émotion au printemps devant la première cerise ou le retour au logis de celui qui retrouve sa femme mariée, il ne disposait plus que d'un langage faux ou des mots réservés pour les opérations ou aventures exactement contraires. Le fait que les Allemands construisent des gares gigantesques, adorent l'univers, tuent Rathenau, il résumait cela par le mot « mentalité ». Le fait qu'une femme se donne, puis se reprend, se redonne, puis, au moment de se reprendre, se vend, il le résumait par le mot « intoxication ». Le fait que l'Europe passait de l'amour pour la France à la haine pour la France, c'était simplement, d'après le mensonge, un déclenchement. Cela lui valait le plus éclatant succès, et d'être lu et réputé jusque dans le pays de Juliette. On mettrait en prison l'individu qui publierait un annuaire inexact des chemins de fer, mais l'Académie s'apprêtait pour Le Mançon, dont circulaient en France 200 000 indicateurs faux pour l'amitié, l'amour et, comme on va le voir, la mort. Juliette se rendit chez lui un dimanche matin, unique matin de la semaine où se visitent les artistes et écrivains non catholiques militants. Le Mançon était seul, car il n'était plus assez jeune pour aller voir les écrivains maîtres et pas assez âgé pour recevoir les jeunes. 12 périodes intermédiaires dans la vie des romanciers qui leur redonnent, entre 40 et 45 ans, les dimanches. Enfance de la gloire, Le Mançon était le seul écrivain porté sur le carnet de Juliette, car les Le Mançon sont originaires d'Effia, comme les Montpensiers, et d'ailleurs leurs cousins les Durafort sont deux moulins, comme les Bourbons. Chaque nom bourgeois au centre de la France s'accouple naturellement à un nom de roi. Il faut dire à son honneur que Juliette avait essayé d'en voir de plus célèbres. Mais elle avait été happée par un chien à la porte du premier. Elle avait glissé dans l'escalier du second, et devant la tombe d'un troisième, elle avait été coupée au visage par la branche d'un saule. Avec cette morsure qu'elle devait à Anatole France, cet écartèlement qu'elle devait à Bourget, cette égratignure qui lui venait d'Alfred de Musset, toute courbaturée par la fréquentation de nos poètes, elle arriva chez Le Mançon, justement méfiante, fermant les portes de l'ascenseur, appuyant sans poids sur la sonnette, prête à l'électrocution. Elle attendit ce temps d'attente nécessaire chez tous les écrivains pour leur permettre d'achever la phrase commencée, si variable selon leur facilité. Elle attendit une seconde et Le Mançon parut. Si Juliette avait soupçonné de quelle nomenclature précise le menson disposait pour nommer chaque partie de son corps, car il avait tenu à prendre son diplôme d'anatomie pour n'en rien ignorer, elle eût été bien confuse. Mais elle s'imaginait que ce psychologue connaissait seulement les articulations de ses désirs, les pulsations de ses indifférences, et elle en était toute fière. D'ailleurs, dos à la fenêtre, illuminée cette fois par midi, la brise l'éventant, elle avait l'air d'un de ces génies dont le menson, car il avait lu le dictionnaire swedenborgien, connaissait aussi par leur nom chaque détail et tous les mots qui s'appliquent aux femmes, tels que gorge, soutien-gorge, etc., furent revêtus soudain dans le menson par leur synonyme pour être surnaturel. C'est ce changement subit de vocabulaire, rapide comme un changement de vitesse, que d'aucuns dénomment l'amour. L'opération, par contre, fut inverse en ce qui concernait le menson. Il portait des lorgnons à chaîne, une chaîne de montre, une épingle de cravate à perles balançantes, de sorte qu'à chacun de ses mouvements, un fil de plomb de nacre et d'or indiquait l'axe auquel le menson renonçait. Les bijoux ne sont beaux et ne remplissent leur rôle que s'ils ont l'air d'être jaillis de la personne qui les porte. Ce n'était vraiment pas le cas. Rien dans l'auriculaire de le menson qui eût pu être la matrice de sa chevalière à vitrail, rien dans son sternum qui justifia cette breloque Louis XIII. Il avait plutôt l'air d'un aimant qui s'est promené dans une orfèvrerie, et cet amas d'objets précieux sur lui, au lieu d'évoquer la richesse, appelait à la pensée de Juliette tous les objets utiles et vulgaires qui remplissaient le véritable office dans cet habillement, bretelles, jarretelles et pince à cravate. Juliette, évidemment, ne s'attendait pas à ce qu'il vînt nu, ni à ce qu'il portât un péplum ou des braies, mais les vêtements de le menson semblaient avoir subi démesurément les opérations de la coupe. Partout et en tous sens couraient d'énormes coutures, comme sur le moulage en plâtre d'une statue. Si bien que Juliette eut, par de faux indices, l'impression de la vérité et soupçonna que le menson était un faux, un moulage d'écrivain. Le menson regardait Juliette et essayait de pénétrer par un regard en cette jeune fille inconnue. Mais le menson n'avait qu'un talent. Il ne pouvait comprendre les femmes qu'au moment où elles abandonnent l'amour, par tristesse à cause de l'âge ou par désespoir. Dès qu'une de ses héroïnes sentait sa liaison menacée, le style de le menson sortait un peu de la platitude. De même dans la vie. Entre 10 femmes, le menson devinait celle qui s'était dans la journée découvert une ride, reconnaissait à sa rougeur ou sa pâleur la partie d'un visage nouvellement et longuement massé. Un itinéraire implacable conduisait, par les salons, de la femme qui s'est éteinte pour la première fois à celle qui venait de surprendre pour la première fois sa fille embrassée par un joueur de tennis. Quand on voyait le menson se lever de sa chaise et se diriger brusquement vers une lointaine voisine, c'est que naissait un premier cheveu blanc. Il avait exploité ce don, il avait prétendu créer dans la littérature une annexe contemporaine au cercle des délaissés, où circulaient, au lieu de Clytemnestre et d'Hélène, celles venues d'Anjou ou d'Algérie ou de Montmartre, que les critiques appelaient maintenant les Lemansoniennes. Il regardait cette belle fille, avec ses attributs de Péri, ses iris d'elfe, sa base de nez d'archange, ce visage d'une lecture aussi facile que les lettres des autobus, et il n'y comprenait rien, rien. Aucun indice par lequel se révéla sur ses traits les sentiments qu'il connaissait si bien sur ses favoris, ce subit dégoût des belles sorties de Paris par le bois et le parc de Saint-Cloud, qui correspond au subit dégoût d'aimer, cette haine de l'heure d'hiver, qui correspond à la lassitude d'étreindre un corps hypocrite, ce désespoir au mot de Barbizon, qui est le désespoir d'avoir toute la vie à n'embrasser qu'un ingrat. Sur tout ce corps, il n'y avait de rides qu'une ligne de cœur toute droite, du nord au sud, l'endroit du monde le plus éclairé, mais où le jeu du soleil et de l'ombre s'exprima avec le plus de discrétion, et une ligne de vie toute droite, de l'est à l'ouest. Juliette, d'après l'âge des portraits et des photographies dédiées à le menson, d'après l'âge même des femmes de bronze ou de porcelaine éparses dans la pièce, comprenait confusément l'embarras de son hôte, et elle gonflait en elle ce qu'elle devinait pour lui un mystère, sa joie, ses joues, sa jeunesse. Il la regardait comme un numismate regarde un individu qui porte dans son estomac une monnaie antique, avalée au cours d'un pillage, et qu'il lui suffirait d'extraire pour déchiffrer l'inscription qui ruinerait ou confirmerait la thèse de sa vie. Beaucoup ont tué des jeunes filles pour être enfin renseignées, mais le menson n'était pas sanguinaire. Il se contenta de lui dire qu'elle était une énigme. Juliette le sentait, et elle sentait aussi que les hommes, eux, avec leurs objets d'or, leurs paroles, leurs vêtements, sont moins des énigmes que des rébus. Devant cette créature autour de laquelle son esprit tournait à la recherche d'un joint comme on tourne autour du crocodile, le mançon, dont le talent partait des femmes d'âge, la traitait sans s'en douter, comme si elle était d'un âge supérieur à celle de ses belles amies. Familier avec les autres, il employait à chaque phrase pour Juliette le mot respect, le mot hommage, saluant, poussant des coussins, à croire que l'espoir, la confiance, la certitude du bonheur étaient pour lui les attributs d'une haute vieillesse. Juliette en profitait. Malgré son extrême timidité en face d'un grand homme, elle en profitait pour faire valoir sa voix, ses yeux, comme le diamant le plus timide profite d'être diamant quand la lumière lui arrive. Elle était venue adjurer cet homme de la renseigner pour toujours sur la vie, sur la mort. Il détenait des foudres, des bulles, mais elle ne dédaignait pas de faire valoir ses avantages de créature par ce léger chantage que le plus modeste d'entre nous aime exercer vis-à-vis même de Dieu les jours où il fait beau, où nous nous sentons en beauté et où nous remplaçons vis-à-vis de lui notre religion par des sourires et par des mines. Jour heureux, où c'est pour Dieu que l'on relève sa voilette, que l'on dégrave son fichu, où, bien que seul, on n'agit plus dans les prairies et les bois avec aussi peu de précaution que si on était devant un aveugle. Plusieurs fois déjà, à Aigueperse, en promenade le long de la route de Clermont, quand les riches automobiles s'échangeaient entre Vichy et Royat, dans cette lumière heureuse où elle se sentait d'une densité plus ferme, dans cet état instable où sous d'autres âges sa précipitation en ruisseau ou en chaîne se fût automatiquement opérée au premier regard d'un puissant du monde, sur cette limagne, qui est le tapis le plus épais posé sur des grès herciniens, Juliette, juste aussi droite que ces arbres qu'aucun vent marin n'incline, mais seul à arbuste qui n'eut pas son côté de moussure et son côté de soleil, Juliette aimait voir les Rolls-Royce arriver sur elle, Dieu bleu, Dieu vert, Dieu carmin, comme des regards ravisseurs. Elle sentait chacun de ces beaux conducteurs inconnus et invisibles sur leur masque l'effleurer, et, comme au manège, arriver à prendre sur elle-même elle ne savait quelle bague, manquée complètement par cette berlier trop lente, par cet Amilcar mal tenu, bague qui ne pouvait être arrachée d'elle que par l'extrême luxe ou l'extrême vitesse. Le soleil l'adorait. Toutes ses facultés féminines d'affection, de fidélité, de reproduction étaient annihilées au fond d'elle. Elle se sentait personnifiée, non plus la jeunesse, non plus même, comme dans la revue jouée chez Madame Servant, la jeune fille d'Aigueperse, mais une sorte de vertu masculine et d'être mâle. Les Hispano-Suizas passaient. Toutes ces belles flèches la traversaient comme le Saint-Sébastien de son église, à tous les points du corps, mais trouvant partout un cœur entier qui montait et descendait, Juliette s'habillait pour ses promenades solitaires de toute son élégance. Elle réservait sa plus extrême coquetterie pour ce qu'il y a de plus fugitif communion, la vue d'une 100 chevaux en quatrième vitesse, pour cette union d'un dixième, d'un vingtième de seconde. Elle avait mis aujourd'hui la même toilette. Mais elle comprenait déjà que l'esprit, le talent, le cœur de Le Mançon n'était pas cette âme de l'âge, ce talent Renaud, ce cœur cadillac auquel elle était venue s'offrir comme un elfe sur la route pour une collision invisible, et c'est comme on récite son couplet devant une sibylle sous le voile de laquelle on vient de reconnaître une tante de province, qu'elle lui posa ces questions, qu'elle aurait tellement préféré poser à Larbeau ou à Max Jacob. Qu'est-ce que la vie ? Le Mançon n'aimait pas les questions aussi directes. Il aurait préféré de beaucoup qu'on lui demandât son avis sur le monologue intérieur, par exemple, dont il devait parler prochainement devant une assistance de Le Mansonienne. Il n'était pas de ceux qui trouvent le moyen, en vous indiquant ce qu'ils pensent de la vie, de modifier votre conduite pour la journée et jusqu'à votre façon de prendre l'omnibus. Qu'allait-il bien dire de la vie à cette jeune fille inexperte, mais exigeante, qui savait encore par cœur les 300 sous-préfectures de la France et leurs spécialités culinaires, les 300 plus grands hommes, qui tendaient à la vie une âme adolescente armée de ses 600 papilles à vide? Le Mançon préféra tourner la difficulté et se faire valoir un peu. Sa théorie de la vie? Elle consistait à regarder certains êtres, certains pays, au visage et d'autres au corps. Juliette ne saisissait pas. Quelle écoute! Lui, Le Mançon, avait jadis composé une scénette jouée dans les plus grandes villes de l'Europe où lui-même la mettait en scène. Le deuxième tableau montrait le rideau percé de 30 trous, étalés ou superposés, où les jeunes filles et les femmes de la société passaient la tête. Au Portugal, le spectateur avait une vue inoubliable. 60 yeux admirables qui semblaient appartenir à la même personne, et l'on savait désormais ce que c'est qu'être regardé par le géant Argus. 60 lèvres ouvertes sur un ivoire qui semblait courir sous tous les corps. Toutes ces femmes avaient des crânes en ivoire, des maxillaires en ivoire. Mais qui passaient derrière la scène découvraient des corps inégaux, des chevilles d'hommes, des bras sans finesse. Toutes les têtes souriaient. Tous les corps se crispaient et, en vain, pour pénétrer dans le domaine de lumière. Le rideau ainsi qu'un couperet tranchaient la beauté de la laideur. Ce fut le contraire dans tel pays scandinave. Le spectateur voyait des yeux fades et arrogants, des cheveux chanvres, de larges bouches ouvertes sur des dents à mâcher des viandes, mais le machiniste voyait 30 corps souples et parfaits, nus pour la circonstance, car pour toute opération esthétique, pour penser, par exemple, le Scandinave prend la précaution préliminaire de se déshabiller. Si bien que ce jour-là, le mensonge resta derrière le rideau. Dans un seul pays, il passe le même nombre de minutes dans son avant-scène et dans la coulisse, en France, ainsi est tout être, telle est la vie. Juliette souriait. Elle trouvait son hôte naïf, cette guillotine n'était pas pour l'effrayer. Elle sentait au contraire en elle amicalement et indissolublement unies ces parties du corps si peu solidaires dans les exemples fournis par le mensonge, ses oreilles et ses orteils, son front et son talon, organes qui par plaisir rimaient aujourd'hui entre eux, assonance de joie vitale. Et l'amour? Elle demanda à le mensonge ce qu'était l'amour. De quel amour voulait-elle parler? Moral? Physique? L'amour physique était une aventure tout simplement extraordinaire. C'était évidemment très particulier, un peu curieux, très spécial, mais prodigieux, inespéré. Elle voulait parler de l'amour moral, mais cela ne faisait rien. Et la mort? Car Juliette sentait son avantage d'archange et n'aurait pour rien au monde abandonné les seules armes qu'elle put brandir contre le mensonge, 3 ou 4 mots flamboyants. Le mensonge se révolta. La mort? Question sans intérêt. Ce qui intriguait Paris en ce moment, ce n'était certes pas la mort, c'était le monologue intérieur. Voulait-elle qu'il lui expliquât? Avait-elle entendu parler de Joyce? Elle aurait aimé d'abord poser une question sur la gloire. Le monologue intérieur était un accès de franchise tel que tous les revêtements imposés à l'âme depuis Aristote jusqu'au symboliste en étaient ébranlés. C'était ce tremblement d'âme qui secouait depuis 2 mois les littérateurs parisiens. Il fallait en profiter. Avec un peu d'habileté, le moindre critique pouvait arriver à connaître la vérité sur leur méthode de travail, leur bonne fortune, leur plagiat, leur tailleur. Juliette en désirait-elle un exemple? Non, mais si, il allait. Mais qu'avait-elle? Elle s'asseyait. Elle avait un peu mal aux reins. Alors le mensonge fut ému. Certes, bien des femmes s'étaient déjà plaintes devant lui comme devant un médecin. Se dévêtant pour lui avouer un remords, se dévoilant pour lui montrer un scrupule, se mettant nu pour lui raconter une haine. Mais aucune ne s'était plainte aussi simplement d'un mal physique. Il en fut touché. Il lui parut avoir devant lui la seule femme qui eût jamais été mal à l'aise en ce monde, et alors qu'il comptait bien imaginer un faux monologue intérieur, celui qu'il avait appris par cœur pour les Lemansoniennes, à cause de ses reins humains imposés à ce corps de sylphe, il décida d'être sincère. Voici, il commençait. Quoi? Non, il n'y avait pas de monologue intérieur en vers. Il commençait bien entendu à la condition que Juliette, elle aussi, à son tour, lui en donnerait tout à l'heure un exemple féminin. Quoi? Évidemment, c'était une opération dangereuse pour bien des écrivains qui passent pour corrects. On ne comptait plus les fautes de français dans les monologues intérieurs d'écrivains aussi puristes que Marcel Boulanger ou les Tarots. Voilà, il commençait. Le contraire du monologue intérieur, c'était le silence intérieur. Mais assez de questions. Il jurait de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voici. Monologue intérieur. Il perché della caduta del Marco. Tous mes monologues débutent maintenant par cette phrase, que j'ai entendue dans un tramway. Elle est stupide, mais je n'y peux rien. Vraiment, la cheville de cette jeune visiteuse est fine. Autrement fine que celle de Fedora Brandès. Être forgeron, lui forger des anneaux. Obliger cette jeune fille par des anneaux forgés à cette démarche qu'on obtient autrement que tous les 200 ans avec les jupes entravées. La dernière fois que Fedora m'a surpris avec une femme, d'ailleurs tout le monde sait que son vrai nom est Ferdinand et non Fedora, et, au fait, pourquoi ne pas l'appeler Ferdinand la prochaine fois que je la verrai? et s'est précipité, sans paraître nous remarquer, sur un petit tableau représentant M. Van den Kop, traducteur de Télémaque en Hollande. Il a piétiné, qu'ai-je diable à bégayer dans mes monologues? Il perquait de la caduta del Marco. Tiens, c'est la première fois que cette phrase me vient à l'intérieur même du monologue. C'est comme son nom de Brandès. Elle s'appelle Brandebourg. Elle prétend descendre de Stendhal. C'est étonnant ce que les impuissants ont de descendance. Pourquoi m'obstiner à dire que j'aime Fedora? Tout me déplaît en elle. Je hais la manie qu'elle a de mettre les enfants en bas âge en éveil contre leurs parents. Je la hais d'avoir cru pendant toute la guerre que le mot « as » avait un sens péjoratif. Je la hais de me demander à chaque occasion, non pas si l'auteur du Cid ou l'auteur des Maximes est mort, mais ce qu'est devenu l'écrivain qui a dit pour la première fois « ceux qui partent ne sont pas à plaindre, ce sont ceux qui restent » ou « la Beauce est le grenier de la France » ou « qui va à la chasse perd sa place ». Elle me réclame son adresse. Elle veut me tromper avec l'auteur des truismes et le dépositaire de la sagesse des nations. Je me demande aussi ce qu'elle peut entendre par le mot démiurge qu'elle emploie au moins une fois à chaque repas. Mot si beau. À condition d'attribuer avec discrétion aux dentistes et aux pédicures. Pédicure. Beau problème d'ailleurs que celui de la création du monde. Insoluble pour moi que je me place en son centre ou à la périphérie. Il est un peu exagéré de croire que Shakespeare, Hugo, Proust ont été créés à cause de moi. Ce serait à désespérer du créateur. Qu'à cause de moi, autour de moi, il ait imaginé un système solaire de génie et de talent, Aristote, Euripide, et une voie lactée d'auteurs qui sont nécessaires pour la toile de fond, bien qu'il me soit pleinement indifférent, comme saint Thomas d'Aquin et Chendolé. Il perché della caduta del Marco. À la vérité, cette phrase n'appartient pas au monologue intérieur. C'est simplement un tic. D'autre part, imaginez que je ne suis pas le centre du monde, mais un de ses organes, que je suis moi, indispensable à Aristote, à Platon, à Descartes, c'est peut-être un orgueil plus fol encore. Vous me suivez, mademoiselle? Juliette, hélas, suivait. Ainsi c'était cela le monologue intérieur. Ainsi il différait si peu des phrases que prononcent les vieillards qui parlent tout seuls. Le mençon donnait seulement à Juliette l'impression d'une vieillesse précoce. Comme elle avait eu raison depuis qu'elle savait parler de ne jamais vouloir prononcer un mot qu'en présence d'une autre personne. Il y avait un témoin dans le monde à tout ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas elle qui eut adressé la parole à un arbre, à une statue, mais quel bavardage dès qu'apparaissait un cantonnier vivant. Une fois, évidemment, et encore l'on pourrait discuter si parler devant un lapin de Garenne, c'est du monologue intérieur. Ainsi, alors qu'elle se donnait au contraire à sa pensée pour s'épurer, pour n'avoir pas à avaler à chaque instant cette bouillie du langage, nourriture qui ne nourrit pas, voilà donc, sous le manteau du silence, les monstres qui se battaient en elle. Le manceau continuait, et par son monologue, simplement en décrivant sa maîtresse, répondait tristement à toutes les questions que lui avait posées Juliette au début de la consultation. La vie, c'était une suite d'irruptions de Fedora. La mort, c'était Fedora, avec cette haine qu'elle a des ongles longs, coupant chaque soir jusqu'à la mise en bière les ongles du cadavre de Le Mançon. L'amour, c'était l'amour de Fedora. Ce n'était rien, ce n'était pas du tout inespéré, ni curieux, ni spécial, c'était attendu, cela faisait mal. Tuer Fedora, ou la forcer à mesurer ses chevilles avec un mètre de tailleur. Juliette aperçut soudain au fond d'elle-même, immobile, tous ces monstres que déchaîne la confession, tous les contraires à tout ce qu'elle croyait savoir et aimer, monstres endormis, mais existants, le contraire à son amour pour Gérard, à son affection pour son oncle, à son goût pour les crêpes, à sa modestie. Elle sentit tout ce qu'un être garde et défend en se taisant vis-à-vis de soi-même, et que tout humain qui n'est pas doublé à l'intérieur par un sourd-muet est la trappe par laquelle le mal inonde le monde. Elle se doubla de silence. Recouvert par cette couverture, les monstres qu'avait déchaîné Le Mançon, le dégoût des hommes, l'appétit pour les chenilles, le désir de casser le service empire de son oncle, se contentèrent de l'agiter doucement, comme des enfants, sous une toile pour faire la mer. « À vous, mademoiselle !» Le Mançon venait de terminer, tout ému. Il avait cru, avec quelque mauvaise foi, attaquer en lui des sentiments déjà durcis et le sang en jaillissait. Ainsi celui qui de son rasoir croit attaquer un Durillon et attaque son cœur. Juliette souriait, pour laisser croire qu'elle ne voyait dans ses aveux qu'une démonstration, qu'une leçon. Elle essaya même, par politesse, de lui obéir. Mais vraiment, cette confession à soi-même de la pensée et de la vie, elle n'y était pas plus habituée qu'un enfant de 10 ans à la simple confession. Pourquoi n'y a-t-il pas un manuel du monologue intérieur? Jamais elle ne fut plus heureuse de trouver des phrases toutes faites. Ça aurait aussi bien pu être celle que l'on dit dans les fêtes, il se trouva que ce fut celle que l'on prononce dans les deuils. « Cher monsieur, croyez en ma profonde sympathie. Je prends une part, une grande part. » Elle prenait une part, une légère part à la vie physique de Lemançon, car elle avait saisi sa main. Lemançon, les yeux brouillés, se cramponnait à cette main inconnue, tendait de détresse toute son âme vers le dialogue extérieur, et, comme une ombre charmante, retire un passager tombé au Styx. Juliette le fit passer tout dégoûtant de pensée-parole dans la conversation courante. Il leur sembla d'ailleurs à tous deux, en abandonnant le monologue intérieur, abandonner leur corps même, leur viscère, et ils se trouvèrent soudain à la hauteur épurée où le dialogue Berlitz est le seul adéquat, ce dialogue chaste et éternel prévu pour les amants étrangers qui se rencontrent à l'improviste au-dessus des vergues, au-dessus d'un rasoir inconnu, sur des chevaux au galop. Et en effet, des chevaux noirs galopaient vers le Mançon, un rasoir menaçant s'aiguisait sur lui. « Éprouvez-vous vraiment de la sympathie pour moi, mademoiselle ?»«
J'en éprouve vraiment. »«
Et un verre de moscatel, en prendrez-vous un ?»«
J'en prendrai un. »
Ces expressions de Manuel, usées par le contact, par la politesse, par l'aménité humaine, leur semblaient presque maintenant appartenir à un vocabulaire sacré. Ils étaient saisis par la sainteté, par l'innocuité de la conversation courante. Dans leur désir d'échapper à la ventouse du monologue intérieur, ils cherchaient les termes les plus banals, c'est-à-dire les plus rituels, et par un nombre de mots aussi restreint que le nombre des frictions et caresses par lesquelles les fourmis se disent leur chemin ou se dénoncent le puceron le plus laiteux, chacun approchait de beaucoup plus près l'âme de l'autre. «
Vous avez l'air plus tranquille, » dit Juliette.
« C'est le soleil, c'est l'été. » Comme ces relations entre les sentiments de Lemançon et les astres, cette explication du calme de Lemançon qui nécessitait seulement l'intervention des saisons et des nébuleuses, paraissait à Juliette plus satisfaisante et simple que les raisons intérieures. Telle fut la visite de Juliette à un homme de lettres qui aboutit à la défaite de la psychologie, de la psychophysiologie et à la mort du style. Car, pour chaque geste de Lemançon, au lieu de se cacher au fond de sa conscience, la raison en apparaissait maintenant à son extrême surface. Il sanglotait. C'était ce dimanche. Il couvrait de baisers la main de Juliette. C'était ce seringat. Et déjà de ses yeux, l'image de Fedora Brandès avait disparu. C'est alors, poussant la porte avec une telle fureur qu'elle ne sut jamais si elle était ou non verrouillée, que Fedora, sans paraître remarquer Juliette et Lemançon, comprimé soudain à sa vue entre le silence extérieur et le silence intérieur, que Fedora se rua sur le portrait de Madame Vanderborg, femme du traducteur de Télémaque, le lacéra, détruisit tout ce qui subsistait du couple hollandais le plus dévoué à Fénelon et repartit sans maudire en fermant la porte à clé pour en tirer plus tard argument dans ses scènes.